16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et je suis ravi de vous retrouver aux côtés de mon nouveau complice cette saison, un journaliste extrêmement imaginatif qui avait de grands projets pour nous. Il nous voyait
chassant le bison dans les grandes plaines américaines.
Je lui ai dit tout doux bijoux, si on commence déjà par faire une émission de radio. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Oui, après avoir pas mal réfléchi, on s'est dit que ça serait pas mal une émission de radio. Une émission qui porterait sur cette passion que les gens me connaissent et qu'ils ne soupçonnaient pas chez vous Mathieu, l'histoire.
Eh oui Stéphane, historiquement vôtre, c'est chaque après-midi 2 heures de bonne humeur et de savoir autour des destins de 3 personnages ayant marqué l'histoire, quoique parfois de manière bien différente.
Oui, et en ce jour de rentrée scolaire, on vous invite en salle des profs. Mais attention, la meilleure salle des profs de tous les temps.
Jugez plutôt. Prof de musique, Léopold Mozart, oui, le père de Wolfgang. Prof de maths et de physique, Albert Einstein. Il n'est pas donné, mais comme on est dans le privé, on a pu l'avoir. Et enfin, en prof de français, prof principal, Stéphane, un indice, vous l'aimez beaucoup.
Moi, j'adore le moutarde.
Oui, non, mais je vous parle d'un être vivant, Stéphane. C'est l'épouse de quelqu'un qui a un très bon job et qui était prof de français. Ce n'est donc pas la moutarde de Dijon, mais... C'est qui Stéphane?
Mais je ne sais pas.
Vous, oh, vous ne savez dit... pas, mais non. Brigitte Macron, votre amie, mais bien sûr.
Mais elle a arrêté, vous savez, de donner des cours.
Mais je sais, elle était prof de français. Oui, on va revenir là-dessus.
Ah bah écoutez, Léopold Mozart, Albert Einstein, Brigitte Macron. C'est sûr qu'avec des profs pareils, j'aurais peut-être eu mon bac.
Qui sait Stéphane, nous avançons pas trop. Pour évoquer ces 3 destins de pédagogues, évidemment, des invités nous rejoindront. Des invités qui se bousculent au portillon, Stéphane, et pour cause. Après avoir écouté notre émission la semaine dernière, ils savent qu'on fera hyper bien la promo de leur bouquin avec conviction et précision.
Il y a surtout votre livre là sur Jeanne Barret. Voilà une autre aventurière. C'est chez Talendier. Après, et puis il y a aussi. Vous avez écrit énormément de livres.
Bon, ouais, on ne sait plus trop lesquels parce qu'on n'a plus notre fiche sous les yeux. Mais en gros, vous avez écrit énormément de bouquins. Alors, je ne vous révèle pas les noms de nos invités du jour.
Les poubelles de l'émission.
Ah, les poubelles de l'histoire. Ça pourrait être une rubrique. Les poubelles de l'histoire d'historiquement vôtre. Vous allez voir, c'est ma passion.
Alors, mais les bas morceaux, vous allez me les resservir tout le temps.
Exactement. Toutes vos gaffes, elles seront toujours dans le sommaire.
Au sommaire, justement aujourd'hui, comme chaque jour, vos rendez-vous. Historiquement drôle, avec notre brochette de chroniqueurs, que dis-je, d'experts en leur domaine. David Castello-Lopez nous racontera les origines. Les origines de quoi? Ben des grilles de sudoku. C'est un jeu, hein, Mathieu, je vous le dis.
Bah, je vous le dis, moi, je suis très bon. J'ai un niveau extrême parfois.
Non, sudoku. Olivier Pouls, notre gastro-archéologue, nous expliquera comment sont nées les spaghettis bolognaises.
Et ça vous changera du caviar.
Il nous livrera sa recette quelque peu modernisée.
Oui, et à l'aide d'un quiz vicieux qui répond au doux nom de Bern to be alive, nous vérifierons les compétences historiques de Stéphane Bern. C'est de bonne guerre, après tout, il est toujours en période d'essai. Notre historienne Clémentine Portier-Kaltenbach, qui visiblement a également été conseillère technique auprès de certains couples royaux célèbres.
Fallait que monsieur prisse madame par derrière.
Elle nous entraînera avec sa faconde habituelle dans les coulisses de l'histoire et l'intimité des grands de ce monde.
Enfin, historiquement vôtre, c'est la possibilité de rentrer chez soi plus gai, plus cultivé, mais aussi plus riche. Puisque chaque jour, vous pouvez jouer avec nous en écoutant le portrait de notre 3e personnage par Mathieu Noël. Il s'intitule 99% vrai. Si vous trouvez le 1% faux, banco! Vous gagnez combien, Mathieu?
Non, mais c'était façon de parler, Stéphane. Non, vous gagnez rien, vous êtes sur Europe 1 ici. On joue pour le plaisir de jouer. Et puis, c'est très dur de démêler le vrai du faux de ce que je raconte. Rien qu'en lisant la page Wikipédia de Brigitte Macron, j'avais l'impression qu'il y avait déjà des blagues dedans.
Non, mais me fâchez pas avec les gens, Mathieu.
Je suis là pour ça, Stéphane. Vous mettrez tout sur moi. Allez, Stéphane est bien calé sur son coussinet en plume de canard brodé à l'or fin. Historiquement vôtre, peut démarrer.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, et comme c'est la rentrée aujourd'hui pour des millions d'enfants masqués, on vous propose une spéciale rentrée des classes avec aujourd'hui, Mathieu, notre salle de prof idéale.
Eh oui, aujourd'hui on va vous raconter les destins de 3 profs qui ont marqué l'histoire à leur manière, Léopold Mozart, Albert Einstein et Brigitte Macron.
Mais avant ça, comme chaque jour, on remonte aux origines d'un objet de notre quotidien, et avec David Castello-Lopez, on va parler des grilles de sudoku. Bonjour David.
Bonjour. Bonjour.
Alors Mathieu, Stéphane, vous ne me connaissez pas encore très intimement, donc vous n'êtes pas au courant.
Hélas, dirons-nous.
Mais je préfère vous le dire, j'ai une relation très ambivalente avec le sudoku.
Qu'est-ce que ça peut être une relation ambivalente?
Comme ça au moins vous le savez, on peut avancer. Alors, une relation ambivalente, pourquoi? Eh bien, parce que d'un côté, je méprise un peu. Hein. Je veux dire, quand je vois quelqu'un dans le train qui fait un sudoku, j'ai tendance à me dire, ah bah, s'il a rien de mieux à foutre que de remplir des grilles de chiffres qui servent à rien, c'est vraiment que sa vie, c'est de la merde.
Mais de quoi je me mêle?
Mais d'un autre côté, j'admire un peu les gens qui sont forts en sudoku, parce que le sudoku, et plus généralement l'aisance avec les chiffres, c'est souvent considéré comme une marque particulièrement pure de l'intelligence.
C'est vrai.
Et la vérité, c'est que j'ai peur d'être mauvais en sudoku. Parce que ça voudrait dire que je suis bête. C'est pour ça aussi que j'ai jamais fait de test de QI. Parce que
je veux
pouvoir conserver un doute sur ma bêtise. Or, si on me dit « Bonjour monsieur, nous avons le résultat de votre test, vous avez le QI d'une mouette », eh bien, je ne pourrais plus faire semblant. Et le sudoku, c'est un peu un test de QI. Mais c'est surtout intéressant, le sudoku, pour autre chose, c'est que c'est apparu brusquement. Il n'y a pas eu de plus en plus de gens qui faisaient du sudoku. J'ai l'impression qu'il y avait d'abord zéro personne qui faisait du sudoku, et tout à coup, tout le monde faisait du sudoku. Et donc, évidemment, moi, ce que j'ai voulu savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Petite question pour vous, Mathieu et Stéphane. À votre avis, le sudoku, ça a été inventé dans quel pays?
Moi, je dirais le Japon.
Moi aussi.
Eh ben non.
Oh, il nous a piégé, bah. Stéphane.
Sudoku, ça fait.
C'est très bien. Sudoku.
Non, vous êtes pas mal. Alors, il y avait eu des prédécesseurs, disons, du sudoku au XVIIe siècle et puis au XIXe siècle dans la presse française. Mais l'inventeur du sudoku tel qu'on le connaît, c'est un architecte américain qui s'appelait Howard Garnes et qui, en 1979, a vendu le principe sous le nom de Number Place, un magazine de jeux d'esprit très réputé aux États-Unis. Donc, le sudoku, ça date de 1979. Mais à ce moment-là, personne, à part quelques geeks américains, ne connaissait. Et c'est là qu'intervient effectivement le Japon.
Ah.
En 1984, il y a un éditeur japonais de jeux et de casse-tête qui reprend le concept et qui l'appelle, tenez-vous bien, Sudiwa Dokushi ni Kagiru.
C'est sûr que comme
vous
ça,
voyez
ça,
le jeu de mots.
C'est le jeu de mots. Le jeu de mots est bon. Mais voilà. Il est subtil.
Non, il n'y en a pas en fait. Sujiwa Dokushi ni Kagiru, qui peut être traduit poétiquement par les chiffres doivent être célibataires, ce qui est quand même un nom très approprié.
Ah, mais c'est... Oui, mais c'est beau.
C'est très beau. Et finalement, Sujiwa Dokushi ni Kagiru, je le dis une quatrième fois parce que j'aime bien.
parce que je me suis entraîné. Oui, oui.
Ça a été abrévié avec le début des deux principaux mots de l'expression, su, qui veut dire chiffre, et doku, qui veut dire unique. Et là, dès 1984, succès, mais uniquement au Japon. Et puis un jour, 13 ans plus tard, en 1997, il y a un juge néo-zélandais qui s'appelle Wayne Gould qui décide de passer ses vacances à Tokyo et dans un magasin, il tombe sur une grille de sudoku et là il fait mais c'est génial. Et pendant les années qui suivent, il fait deux trucs. Un, il développe un logiciel capable de générer des grilles de sudoku. Et deux, il va voir les journaux pour leur proposer de les publier. Et en novembre 2004, il y a un journal anglais, qui s'appelle The Times of London et qui accepte de publier une grille de sudoku. Et c'est à ce moment-là précis, en 2004-2005, qu'en quelques mois, le sudoku devient le casse-tête le plus populaire du monde. Tous les journaux en publient. Il y a même une information que je n'ai pas pu vérifier, mais comme elle est sympa, je la dis quand même. Hein, c'est généralement ce que font les journalistes.
C'est bien que les journalistes fassent ça.
Mais tous les journalistes font ça. Et je ne m'en prie pas. Dans l'année qui a suivi l'introduction du sudoku en Angleterre, il y a eu une augmentation de 700% des ventes de crayons à papier. Et apparemment, à skip, comme on dit aujourd'hui, eh bien, cette hausse serait presque entièrement attribuable à la folie du sudoku. Dès 2005, il y a eu un championnat du monde de sudoku qui s'est mis en place. Et la seule édition qui a sauté, c'est celle de cette année à cause du Covid. Alors, pour préparer cette chronique, j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de remplir une grille de sudoku.
Mais de quel niveau? Parce qu'il faut dire à nos auditeurs.
Niveau facile.
Ah bah, niveau facile.
Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'a pris 16 minutes et j'ai fait 4 erreurs. Les recordmen du monde, eux, ils font la même chose en 1 minute 30 et sans faire d'erreur. Donc voilà, comme je m'y attendais, j'ai été un petit peu humilié.
C'était prévisible, mais salut, vous tenez bien le japonais. En tout cas, vous savez dire une chose en japonais, vous savez lire très très bien. Si vous dites ça à un japonais, il va se mettre à vous parler en japonais très rapidement et vous n'allez rien comprendre.
Je vais répéter la même phrase à l'infini.
Merci beaucoup David Castello-Lopez pour ce retour aux origines d'un objet.
Europe 1, historiquement vôtre.
Tous les bouchers vous le diront, il y a des brochettes qui ne mettent pas l'eau à la bouche. La poulet ananas poivron, par exemple, celle-ci, elle reste toujours sur l'étalage. Mais notre brochette à nous, je peux vous dire qu'elle fait saliver Stéphane Bern depuis ce matin. Trois destins, trois profs de légende. Enfin, parmi eux, il y a une pote de Stéphane, donc de légende, c'est pas hyper impartial non plus. Léopold Mozart, Albert Einstein et évidemment Stéphane.
Bah, Brigitte Macron.
Voilà, et Bibi, comme on dit.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission où l'histoire chevauche la bonne humeur et Stéphane Bern, bref, qu'on présente ensemble avec Stéphane Bern. Stéphane qui va à présent, pour son premier récit du jour, nous parler d'un illustre professeur de musique qu'hélas, à quelques siècles près, il n'a pas pu se payer. Et c'est dommage, surtout pour ses voisins. Voici l'histoire de Léopold. Oui, ça va Stéphane, merci. Oui, le papa de son Wolfgang Gounet d'amour.
Historiquement vôtre.
Le récit.
Pour commencer, Mathieu, écoutez cet extrait mondialement connu et si poétique d'Die Zauberflöte.
Vous le tenez bien, Stéphane, parce que c'est très aigu. Hein. Je suis assez impressionné.
C'est pas moi. Vous aurez reconnu néanmoins la flûte enchantée composée par Wolfgang Amadeus Mozart quelques semaines seulement avant sa mort. On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Eh bien, derrière le prodige Mozart se cache surtout son père.
Son papa.
Léopold. Le professeur Léopold Mozart peut surprendre, voire choquer. Il est le professeur de seulement deux élèves. Sa fille, Anna Maria, qu'il appelait Nannerl, et surtout son fils, Wolfgang. Wolfgang, Amadeus Mozart, disait à propos de son père, tout de suite après Dieu, il y a papa.
Mais je dis pareil pour notre relation, tout de suite après Dieu, il y a Berne.
Non. Vous l'aurez compris, Léopold Mozart n'a pas simplement eu une place importante dans la vie de son fils. Il est en grande partie l'artisan de son impressionnante carrière. Jusqu'il y a peu de temps encore, on le qualifiait de père tyrannique, de professeur sans cœur et cupide, prêt à tout pour que l'Europe se prosterne devant le talent musical de sa progéniture.
On allait même jusqu'à dire qu'il le menait à la baguette, Stéphane.
Mais, comme un vrai chef d'orchestre, vous avez raison. Léopold Mozart chérit ses enfants plus que tout. Mais face à un tel don, il va tout faire pour conduire ses chérubins vers une carrière qui marquera à jamais l'histoire de la musique classique. Léopold Mozart naît à Augsbourg en novembre 1719. Fils aîné d'un relieur, la tradition veut qu'il succède à son père. Mais son parrain décèle très tôt chez lui sa grande intelligence et s'occupe de son éducation. Il l'inscrit dans des chorales locales et lui fait suivre des cours de grec, de latin, de mathématiques. Léopold Mozart y prend goût et s'inscrit plus tard à l'université de Salzbourg en droit et en théologie. S'il valide haut la main sa première année, il est renvoyé l'année suivante pour absentéisme. Promis à devenir prêtre, Léopold Mozart a une autre ambition, faire carrière dans la musique.
Et oui Stéphane, car Léopold Mozart a la musique dans la peau. Ça fait du bien, c'est pour récupérer un petit peu les gens qui veulent groover.
D'accord, on peut groover avec Léopold Mozart qui a effectivement la musique chevillée au corps. Un corps plutôt attractif d'après les sources de l'époque qui le décrivent comme grand et beau. Peut-être même le plus bel homme de Salzbourg.
Je sens que vous avez passé du temps sur Google Images, Stéphane.
Non, j'ai simplement fait mon travail, Mathieu. Léopold Mozart gravit rapidement les échelons. D'abord valet de chambre et violoniste chez le comte von Thurn. Il devient en 1743 quatrième violoniste à l'orchestre de la cour du prince archevêque. Il montre d'excellentes qualités de pédagogue et se voit confier la formation des futurs violonistes intégrés à l'orchestre. Consécration dans sa carrière de professeur en 1756. Il publie un manuel, une méthode fondamentale du violon qui connaît alors un immense succès.
Je la connais, je l'ai dans ma bibliothèque, Le violon pour les nuls.
Non, c'est un livre qui dévoile sa méthode qui sera appliquée jusqu'au 19e siècle, traduit en plusieurs langues, dont le français, le néerlandais et le russe. Il compose également, et pas qu'un peu, écoutez plutôt, 48 symphonies, 6 divertimenti, 5 concertos pour flûte, 1 concerto pour trompette, 1 concerto pour trombone, 3 sonates pour piano, 12 duos pour violon, etc. J'en passe. Vous avez reconnu ça, Mathieu ?
Bien sûr, c'est du violon.
Non, mais c'est la symphonie pastorale en G majeur de Léopold Mozart. Oui, je m'énerve, ça devient guttural. Quand Wolfgang Amadeus naît en 1756, Léopold Mozart est déjà connu dans toute l'Europe. Mais très vite, il décèle l'oreille absolue chez son dernier fils. Il veut à tout prix développer ses aptitudes musicales. Léopold Mozart troque son habit de compositeur pour celui de professeur. Il sacrifie sa propre carrière au profit de celle, pour le moment hypothétique, de ses enfants. Évidemment, Léopold Mozart n'est pas dénué de bon sens. Il se consacre exclusivement à l'éducation musicale de ses enfants car il a une idée derrière la tête.
Gagner plein de pognon avec son fils.
Ben justement, bien sûr, on projette toujours, vous savez, sur sa progéniture, ses propres désirs.
Ça, je vous confirme.
Oui. En 1762, il estime qu'il est grand temps pour ces deux petits prodiges d'être présentés au personnage le plus important du moment, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Pour lancer la carrière de ses deux enfants, il n'hésite pas à prendre de gros risques. Il demande d'abord un congé à son employeur, le prince archevêque Sigismund von Schrattenbach. Tel des voyageurs itinérants, la famille Mozart part sur les routes, en direction de Vienne. Un voyage de 15 jours, qui les conduit auprès de l'impératrice et de son fils, le futur empereur Joseph II. Wolfgang et sa sœur Nannerl font sensation. À la fin de la représentation, le jeune Wolfgang Amadeus Mozart s'autorise même à s'asseoir sur les genoux de l'impératrice et lui saute au cou pour l'embrasser.
Stéphane, ne me dites pas que...
Non, je ne dis rien. Je ne dis rien de plus pour l'instant.
Dites-nous juste comment Léopold Mozart va permettre à Wolfgang Amadeus d'atteindre son apogée.
Soyez patient, Mathieu.
Oh non.
Vous voulez toujours aller plus vite que la musique. C'est dingue, ça, quand même.
Europe 1, historiquement vôtre.
Que va-t-il se passer ensuite pour Léopold Mozart et pour Stéphane Bern? Parler ainsi de Mozart lui donnera-t-il envie de ressortir sa flûte au sens propre, s'entend? Au nom de la mémoire de Mozart, on prie que non.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors, mon cher Stéphane, en cette rentrée des classes, on évoque aujourd'hui trois profs qui ont marqué l'histoire. Le premier, c'est Léopold Mozart, le papounet d'Amadeus, dont vous étiez en train de nous conter le destin. Reprenez donc là où vous nous aviez laissé.
Cette symphonie des jouets a été composée par Léopold Mozart, le père de Wolfgang Amadeus. Jusqu'à la naissance de son dernier fils, Léopold Mozart est un compositeur reconnu et respecté dans toute l'Europe. Mais face au génie de Wolfgang, il sacrifie sa carrière pour devenir son professeur et son protecteur. Et le jeu en vaut la chandelle, puisqu'en 1762, la famille Mozart triomphe à Vienne. Mais Léopold Mozart a de plus grandes ambitions encore pour ses enfants. À la fin de la guerre de 7 ans, il estime qu'il est temps pour eux de conquérir toute l'Europe. « Je me donne la mission de faire connaître au monde le miracle que Dieu a fait naître à Salzbourg. Et je dois au Dieu Tout-Puissant d'agir ainsi, sous peine d'être la plus ingrate des créatures. »
Vous faites l'accent allemand quasiment aussi bien que Thierry Lhermitte dans Papy fait la résistance. Et ce n'est pas un compliment, parce que autant Giraud et Villeray le tiennent bien, mais alors, enfin de manière caricaturale, autant Lhermitte, on dirait plutôt Michel Leb imitant l'Africain, souvenez-vous.
« Vous ne serez pas les seuls à être épineux. »
C'est à peu près de ce niveau-là, Stéphane, mais continuez.
Je vous remercie. En 1763, disais-je, les Mozart quittent Salzbourg, direction les grandes capitales. La tournée fait escale à Francfort, Londres, Bruxelles, Paris, Amsterdam, Genève. La famille ne revient pas à la maison avant 3 ans et demi. Le professeur envoie régulièrement des nouvelles de leur périple européen aux journaux de Salzbourg pour que des articles puissent être publiés. Il a déjà conscience que le buzz est primordial pour lancer une carrière. Et son audace fonctionne. Oui, les années qui suivent restent rythmées par les voyages, notamment en Italie, où Mozart découvre l'opéra italien qui lui inspirera plus tard les Noces de Figaro ou Don Giovanni. Mais progressivement, Wolfgang Amadeus Mozart s'émancipe et les relations entre Léopold et son fils se distendent. Constance Weber. La femme.
Vous avez l'air de pas trop l'aimer, alors, hein, son nom.
Je l'aime beaucoup, mais son père, son papa, son papounet ne l'aimait pas. La femme donc de Wolfgang ne plaît pas à Léopold Mozart. Selon lui, elle détourne son fils de sa destinée. Alors que Mozart continue son ascension, Léopold, veuf, reste seul à Salzbourg. Et il meurt en 1787 à 68 ans. Wolfgang Amadeus Mozart décède, lui, 4 ans plus tard. Comme disait Pierre Desproges, Mozart était tellement précoce qu'à 35 ans, il était déjà mort.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, on le sait, chers auditeurs, Stéphane Bern est compétent, mais on le sait aussi depuis que j'ai inventé le quiz Bern to be alive, il n'est pas non plus infaillible. C'est pourquoi, pour être sûr de bien tout savoir concernant Léopold Mozart, j'ai pris l'initiative de convier une vraie connaisseuse, la musicienne Ève Ruggieri, la plus grande spécialiste, disons-le, de musique classique et d'opéra. Bonjour Ève Ruggieri.
Bonjour. Ce ton mutin, parce que je suis à la campagne, moi.
Ah oui, quel chien.
Voilà,
oui,
entourée oui. D'arbres verts avec le soleil.
Oui. Là, vous avez bien de la
ils
chance.
Ils vont pas rester longtemps. Que...
Oui, bientôt les feuilles vont tomber. Ça va être l'automne, ça va être dégueulasse.
Mais j'en profite avant.
Oui, non mais tout ce que je sais sur Léopold Mozart, je l'ai lu dans les livres d'Ève Ruggieri, notamment son dictionnaire amoureux de Mozart, qui est paru chez Plon et que je vous recommande. C'est vrai, de Mozart, il y a deux Mozart. Il y a le père, Léopold, et dans la famille Mozart, on demande souvent le fils, Wolfgang Amadeus. Léopold est le père, le professeur, mais au fond, il est plus que ça, Ève.
Il est l'agent.
Aussi l'agent, l'impresario, il doit tout à son père.
Mais ce que vous avez dit tous les deux est absolument vrai. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert que relativement tard, c'est que Léopold Mozart n'était pas du tout le père Fouettard, que c'était un homme extrêmement connu dans toute l'Europe grâce à cette méthode de violon que vous avez, dont vous avez parlé. Mais surtout, et quand il entraîne son fils, auquel il a appris à lire, à écrire, la géographie, il profite de tous les voyages qu'ils vont faire dans toute l'Europe pour lui faire découvrir les plus grands musées. Quand ils sont à Rome, ils sont au Vatican. Quand ils sont à Venise, ils font tous les grands palais. Il explique tout ça. C'est un homme qui est très curieux, qui est un scientifique aussi, Léopold Mozart, et qui, par exemple, dès la parution de l'ouvrage de Beaumarchais, dont ils vont faire les noces de Figaro, il va acheter le livre, il va se procurer le livre. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus qu'un père, c'est un professeur. Moi, je pense très sincèrement que sans Léopold Mozart, il n'aurait pas eu le génie de Mozart. Mmh. Ça, c'est certain.
Alors, on va en parler dans un instant, cher Ève, et puis aussi l'obsession qu'avait Léopold Mozart que son fils ait un emploi stable et gagne beaucoup d'argent.
Et oui,
On va en parler dans un instant, mais ça, c'est historiquement vôtre. C'est de la musique d'aujourd'hui. Voilà. On parle de Mozart, père et fils, avec Ève Ruggieri. Sur Europe 1, Mathieu, tenez-vous mieux.
Pardon, je me redresse. Excusez-moi.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Dans la vie, on peut aimer le quinoa et la blanquette de veau. On peut aimer Carlos Gardel et Carlos tout court. Avec Stéphane Bern, mon nouveau complice, on aime l'histoire et l'humour.
Et oui, à propos d'humour, tu connais la différence entre un travesti vulgaire et un parapluie anglais.
Non mais qualitatif l'humour, Stéphane.
Oh pardon.
Non, chaque après-midi, soyons sérieux, historiquement vôtre, c'est 2 heures pour se vider la tête tout en se la remplissant. Vous me suivez toujours, Stéphane ?
Ah oui, parfaitement.
Au programme, 3 personnages historiques, 3 destins a priori différents mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, 1er septembre, rentrée des classes oblige, notre rédacteur en chef nous a proposé de retracer le destin d'Albert Einstein, celui de Brigitte Macron, bon ça c'est l'Élysée qui nous l'a proposé directement, et celui dont Stéphane vient de nous conter l'histoire, Léopold Mozart. On continue d'évoquer ce personnage forcément moins connu que son fils avec vous. Ève Ruggieri, je dis moins connu, mais finalement, à l'époque, il était déjà très connu, le père Mozart, si j'ose dire.
Mais il était beaucoup plus connu que son fils. Oui. On accueillait le père d'abord, et puis ensuite on parlait du fils.
Mais on a le sentiment quand même, Ève, que Léopold Mozart est obsédé par la réussite professionnelle de son fils, le fait qu'il ne tire pas le diable par la queue, qu'il ait un emploi stable, qu'il gagne beaucoup d'argent. J'imagine que tous les parents veulent que leurs enfants réussissent.
C'est pareil aujourd'hui. Les musiciens, c'est un métier difficile qui demande des années d'apprentissage et comparé à beaucoup d'autres métiers où on ne gagne pas forcément très très bien sa vie. Léopold est paniquer sans arrêt. Il faut trouver l'argent, il faut survivre et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de rivaux et ils ne sont pas tendres. La guerre entre Mozart et ses rivaux a été parfois très difficile.
Là, vous avez vu la méthode pour apprendre le violon de Léopold Mozart ? On en parle beaucoup, nous.
Je l'ai à la maison, oui.
Ah oui,
je l'ai à la maison.
Ça marche vraiment ?
Oui. Je sais pas.
Est-ce qu'avec Stéphane, si on s'y met maintenant, oui. Il faut 20 ans pour faire un bon violoniste.
Ça a marché pour maman, apparemment, mais pour moi, pas du tout. Moi, j'ai choisi un instrument que l'on joue assis. C'est déjà plus confortable.
Oui, c'est plus confortable, le piano. Mais au fond, leur rapport se distende entre Léopold et Wolfgang à cause d'une femme, Constance.
C'est surtout une première fois avec Aloysia, qui est une jeune cantatrice dont c'est le premier et le seul grand amour vraiment de Mozart. Et quand il dit à son père qu'il veut l'épouser, Léopold est catastrophé parce qu'il se dit « elle va transformer mon fils en porteur de valise ». Parce qu'elle est une carrière de diva, c'est déjà une jeune chanteuse très connue, et donc il se dit « Mozart ne va composer que pour elle ». Il est tellement amoureux et sa carrière est foutue. Et donc, il va l'obliger à rompre. Et ça sera, pour Mozart, vraiment un déchirement. Ensuite, il va rencontrer la sœur, une des sœurs d'Aloysia, Constance, qu'il va épouser, que les historiens ont beaucoup calomnié. Parce que c'était vraiment l'épouse qu'il lui fallait. Elle était comme lui, elle adorait rire, elle était gourmande. L'érotisme ne la décourageait pas, loin s'en faut. Et pour Mozart, ça comptait beaucoup. Et ils vont être un couple délicieux tous les deux. Mais c'est l'occasion d'une rupture, celle-là, qui est pratiquement définitive avec Léopold. Et ce sera déchirant autant pour Léopold que pour Mozart.
Eh bien, merci beaucoup, Ève Ruggieri. On a appris déjà beaucoup avec Stéphane. On a appris encore plus avec vous.
Bah, j'ai tout lu dans dictionnaire.
C'est ça.
Dictionnaire amoureux de Mozart d'Ève Ruggieri, paru aux éditions Plon.
Europe 1.
Historiquement vôtre.
Avec Stéphane, nous sommes d'accord sur une chose qui a d'ailleurs présidé à la création de cette émission. L'histoire officielle, c'est très bien, mais les coulisses de l'histoire, c'est encore mieux. Par exemple, pour préparer cette émission, cet été, on s'est tapé Rosan Vallon. Enfin, je veux dire qu'on a relu les 6 tomes de l'histoire de France de Pierre Rosan Vallon. Bon, comment dire ça, Stéphane ?
Pas de quoi provoquer des légères érections.
Voilà, trouvez toujours la bonne image.
Bref, mais vous trouvez
où voici venir, ce n'est que ce qui sort de votre bouche, Stéphane, si j'ose dire. Voici venir dans l'intimité de l'histoire, une chronique 0% Rosan Vallon et 100% Portier Kaltenbach.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est avec bonheur et gourmandise que nous vous accueillons dans Historiquement vos 2 heures pour vous raconter l'histoire sans jamais se la raconter.
Elle non plus ne se la raconte pas, Stéphane, et pourtant elle pourrait. Pensez donc, c'est à elle qu'on doit les questions les plus perfides de l'édition française du Trivial Poursuite. Une historienne aussi érudite que drôle qui commence chacune de ses chroniques par « Ah non, je vous préviens aujourd'hui, pas de sexe !» Et 30 secondes plus tard, on se retrouve dans la chambre de la Pompadour avec un niveau de détail digne des meilleures productions d'Orcel. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour les garçons, bah oui, pas de sexe en tout cas pas aujourd'hui.
Ah,
nous
non,
nous sommes à l'école,
ceinture.
Écoutez, alors
ah,
bon,
oui,
hein, pas chez les pères de la doctrine chrétienne. Alors bon, pour être bon élève ou bon prof, il n'y a pas à tortiller, il faut avant tout avoir une tête bien faite, un cerveau en état de marche. Ah, le cerveau, noble organe, siège de la pensée. Mais enfin, mis à part le cerveau de Voltaire, exposé pendant des décennies sur l'étagère d'une officine pharmaceutique de la rue de Beaune à Paris, avant d'être échangé par son propriétaire en 1924 contre 2 fauteuils d'orchestre gratuits pendant 20 ans à la Comédie-Française, eh bien, à part ce cerveau célèbre qui achève de se dessécher dans le socle d'une statue de l'autre côté de la Seine, pas loin de chez nous, ce ne sont pas les collectionneurs de reliques, mais plutôt les muséums d'histoire naturelle et les facultés de médecine qui, depuis le 19e, s'enthousiasment pour cet organe, il faut bien en convenir, peu ragoûtant, mais tellement fascinant. Les anthropologues du 19e, Broca ou Cuvier, se passionnèrent pour les relations entre volume du cerveau et intelligence. Alors lorsque Broca trouvait une nouvelle boîte crânienne, il la fourrait d'une grenaille qu'il pesait ensuite. Une grenaille, pour vous Mathieu, ce sont des...
Mais pas pour Stéphane.
Non, Stéphane, il comprend la grenaille.
Ce sont des copeaux métalliques,
des copeaux de fer.
Il en a aucune idée, oui.
Non, mais si, bien sûr que
mais
si.
Comment ça,
si, mais bien sûr, mais si, non, mais si. Je le connais bien. Hein. Il sait ce que c'est que la grenaille. Alors, donc revenons à Broca. Donc il prenait sa grenaille de fer et puis il appliquait cette technique au crâne de Descartes. Il la truffé de grenailles de fer. Et comme il était persuadé que l'intelligence était proportionnelle au volume du cerveau, il fut très surpris qu'un aussi petit cerveau ait pu abriter un si grand génie. Parce que voyez-vous, le cerveau humain pèse en moyenne 1,3 kg. Certains peuvent atteindre plus de 2 kilos. Celui de l'écrivain russe Tourguenieff pesait 2 kilos.
C'est justement 2 kilos à perdre.
Alors, celui d'Anatole France ne pesait qu'un tout petit kilo, comme Gambetta, à peine 1 kilo. Oui. Celui du grand poète anglais Byron, 2,3 kg, messieurs.
Oui, enfin.
En tout cas, c'est grâce à ces pionniers que l'on a commencé à chouchouter le cerveau. On s'est mis à le dorloter, à le conserver bien frais dès son exérèse. Mathieu, excusez-moi, exérèse, pour vous, ça veut dire extraction. Hein. À le conditionner. Dans des bocaux de formol, à le parcelliser, le réduire en purée, l'archiver entre 2 lames de verre. Bon, reste que le cerveau le plus examiné, le plus décortiqué de toute l'histoire de la matière grise mondiale n'est malheureusement pas français, mais soviétique. Eh
non.
Oui, c'est le cerveau
de Tourguéniev.
Non.
Lénine,
voyez, Stéphane, bravo Stéphane.
Il est à combien, Lénine, en centimètres
cubes
de cerveau?
Le cerveau Lénine, parcellisé, découpé en 31 000 tranches. Et c'est à son intention que le neurobiologiste allemand Oskar Vogt reçut en 1925 du gouvernement soviétique la mission de créer l'Institut du cerveau. Dans les années 30, la collection de l'Institut s'enrichit des cerveaux de dirigeants du parti, tels que ceux de Kalinine, de Kouibitchev et même de la Krupskaya, la femme de Lénine. Hein. Et puis il y a eu, on a donné à l'Institut du cerveau le cerveau d'écrivain, tel Gorky, Mayakovsky, et même le cerveau de scientifique comme Pavlov, vous savez, celui du réflexe pavlovien. Tout ça, c'est à l'Institut du cerveau. Et toutes ces brillantes cervelles seront rejointes par la suite par celles de Staline, bien sûr, et de différents prix Nobel. Alors, l'Institut du cerveau mènera sur le génie et la pathologie des recherches extrêmement sérieuses, mais fondées sur un postulat de départ idéologiquement inébranlable. Le cerveau de Lénine était et devait rester à tout jamais
le
plus génial de tous les temps. Dans un ouvrage intitulé « L'ultime diagnostic du génie », l'historienne Monica Spivak prétend également que l'Institut détiendrait le cerveau parcellisé d'Andrei Sakharov, prix Nobel, inventeur de la bombage soviétique mort en 89. Il y aurait là une vraie ironie du sort, car le cerveau d'Einstein, père de la bombe atomique américaine, connu outre-Atlantique, un destin un peu similaire au sien. Hein ? À la mort d'Albert Einstein, le 18 avril 1955, Thomas Harvey, le médecin qui pratique son autopsie à Princeton, conserve le cerveau d'Einstein en 240 morceaux, contre l'avis de la famille et surtout contre l'avis d'Einstein qui avait demandé expressément à être incinéré. Harvey va garder la moitié du cerveau dans une boîte à biscuits. Puis, avant sa mort en 2007, il remise le cerveau dans un Tupperware pour aller le restituer solennellement à la petite fille d'Einstein en Californie.
Moi, ça fait plaisir comme cadeau.
Alors Stéphane, vous allez nous en dire plus sur Einstein dans quelques instants. Oui. Enfin, permettez-moi, pour rassurer les parents et les professeurs en cette période de rentrée scolaire, de signaler que le cerveau d'Einstein avait pour caractéristique d'être par son volume inférieur de 10% à la moyenne et d'être assez différent des os du vôtre et du mien, de posséder notamment crêtes, bosses et vides inhabituels et de ne pas présenter de scissure de Sylvius, cette tranchée séparant les deux parties du cerveau. Qu'en conclure, sinon en partageant avec vous l'adage prometteur de Michel Audiard pour les mauvais élèves, « Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.
Merci, Clémentine Borty-Kaltenbach.
Et vous restez avec nous, Clémentine.
Ah bah oui.
Ah bah bien sûr, c'est l'heure de notre désormais classique duel. Notre quiz en face de vous, Clémentine. Comme Louis XVI dans la petite charrette qui le menait vers la place de la Concorde un certain 21 janvier 1793, Stéphane Bern le sait, il a peu de chances d'en sortir la tête haute.
Ah mes aïeux.
Non, vos aïeux n'y sont pour rien, Stéphane. C'est vous, face à votre destin.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et l'heure du quiz a sonné. Chaque jour, l'affrontement au sommet entre deux férus d'histoire que tout oppose. Stéphane Bern aime l'odeur des scones à la confiture de framboise quand c'est l'heure du thé et qu'il peut lire Daniel Steele en caressant d'une main chaste son collier à poils longs, à ne pas confondre avec son colline à poils longs à la mirlandais. Bref, Clémentine Portier-Kaltenbach, elle, aime l'odeur du napalm le matin. Quand elle fait renifler une chaussette en tweed de Stéphane à son pitbull afin qu'il identifie son odeur et que le jour où l'occasion se présente, elle puisse lui dire « Attaque Ravaillac !» car elle a appelé son pitbull Ravaillac. D'où vient entre eux cette inimitié, cette volonté de gagner, d'écraser l'autre à tout prix, comme une mouche, un frelon, un cancre là ? Peut-être de la fois où Stéphane n'avait pas été méga gentleman avec Clémentine. Moi, je miserais plutôt sur Clémentine.
Vous avez raison, c'est le bon cheval. Enfin, si je puis me permettre.
Clémentine, l'heure de votre vengeance a certainement sonné. Voici notre célèbre quiz, Bern, to be alive. Et à la fin, il est souvent dead. Question numéro 1. Je vous rappelle que c'est un simple vrai-faux.
Une boule de vis, vous pouvez
le dire, oui. Question numéro 1, elle est pour vous, Stéphane. On se souvient de Félix Kir, on en a parlé, ce chanoine qui a donné son nom à la célèbre boisson. Il y a aussi eu un monsieur Boycott.
Oui,
vrai
absolument.
Ou faux?
Oui, oui.
Ah oui, non, réfléchissez même pas. Ça, c'est un cerveau qui mériterait d'être étudié. Oui. Découpé en fines lamelles pour vérifier. Et la bonne réponse de Stéphane, effectivement, en 1879, un riche propriétaire britannique possède des terres à l'ouest de l'Irlande. Les récoltes sont très mauvaises, les paysans réclament une baisse du loyer qui leur sera refusée. Le capitaine Charles Cunningham Boycott est envoyé pour expulser les mauvais payeurs. La population va refuser de lui parler, de lui vendre des vivres. Le terme boycott est inventé. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. 1949, c'est la naissance de Paris Match. Sa célèbre devise, c'était « Le poids des mots, le choc des photos depuis 2008 ». Elle demande à changer de formule. C'est vrai puisqu'on vous le dit. La nouvelle phrase de Paris Match. Vrai ou faux ?
Et vous estimez que c'est une question d'histoire ?
La personne qui prépare ce quiz, en tout cas, estime que c'est une question d'histoire.
Je ne vois guère pourquoi Paris Match aurait changé de slogan quand un slogan est aussi bon, aussi percutant, donc je vais répondre faux.
Vous répondez faux, mais c'est une mauvaise réponse. Néanmoins, je ne sais pas si on doit accorder le point parce qu'ils ont changé de slogan. Le slogan, c'est... Vous le connaissez, Stéphane ?
L'actuel slogan ?
Oui.
Oui. Le...
Pourquoi changer de slogan ? Ce slogan est fantastique. Slogan.
Ben oui, et il serait bon que vous le sachiez, Stéphane.
Oui,
même si Stéphane ne le sait pas.
La vie est une histoire vraie. Autre info sur Paris Match, Clémentine. Vous pouvez vous rattraper. Ils viennent d'embaucher un jeune journaliste. D'après vous, qui est ce jeune journaliste ? Il s'agit.
Non mais jeune.
Vous pouvez, vous pouvez l'annoncer. Vous pouvez l'annoncer.
Oui, je peux l'annoncer. J'entre. Oui, oui, je. Oui.
Ah, mais vous savez, 62 ans aujourd'hui, c'est jeune. On est en 2020. Question.
Je n'ai pas 62 ans.
Question numéro 3, c'est encore. C'est pour vous deux, je vais vous départager. Attention, attention, ici. Il faut répondre chacun. Dick Williams était champion de tennis américain. Il a gagné l'US Open en 1914 et 1916. Mais quelle était sa particularité ? 1. Il a survécu au naufrage du Titanic. 2. Il a été le premier tennisman à faire de la pub. Ou 3. Il s'est suicidé parce que tout le monde se moquait de son prénom.
Moi, je dirais.
J'aurais bien vu le Titanic, c'est
ou
sympa
Titanic,
comme.
Ou il a fait de la pub.
Il va falloir décider.
Oh, la
en tout
pub,
cas,
c'est
alors.
Pas intéressant. Alors, moi, j'aurais Titanic, préféré qu'il,
survécu,
qu'il soit sur le Titanic.
Il a survécu.
Oui, oui, mais qui a donné la réponse en premier ? C'est Clémentine, il a survécu, oui, effectivement.
Enfin, elle n'avait pas. Elle avait perdu déjà les points en avant, donc j'ai gagné.
Oh là là, mais dis donc, ce qu'il est potache, ces fans, je découvre ça.
C'est que Mathieu Noël me fait passer pour une bille.
Ah oui, c'est quand même l'objectif de ce quiz, non ?
Oui, pour une bille, Stéphane. Mais ça vous intéresse l'histoire de Dick ? 1912, il survit au naufrage du Titanic. Un an plus tard, il gagne une Coupe Davis. Il en gagnera 5 autres. Il a été champion olympique en double et remportera 2 US Open. Clémentine, qui remporte ce quiz ? Est-ce que c'est Clémentine ? C'est Clémentine Portier-Cabeza qui remporte
bravo.
Le quiz. Oui, parce que, oui, tout à fait, c'est elle. Mais Stéphane, c'est on ne peut pas truquer.
Vous avez
mais vous voulez pas que je truque le jeu, Stéphane ?
Je jubile modestement.
Mais pas du tout.
Qu'importe. Je décrète qu'elle va gagner tous les quiz parce que j'aime Clémentine.
Ah, oh, c'est gentil.
Et
c'est
je
gentil,
m'efface
Stéphane.
Devant son talent.
Et Stéphane, c'est bien gentil à vous parce que vous voyez, depuis que je participe à cette émission, j'ai des amis qui m'ont entendu raconter que le mammouth Jarkov avait un clapet anal et je peux vous dire que vraiment, le condor est devenu cacatoès. Hein. Alors maintenant, dans les dîners, j'ai l'air de quoi.
Vous avez tous l'image en tête ? Je vous laisse là-dessus.
Europe 1, historiquement vôtre.
C'est maintenant clairement établi l'histoire et la passion de Stéphane Bern. Peut-être pas son fort, mais sa passion. Et c'est ça qui est important quand on a comme vous, Stéphane, l'envie de transmettre.
Là, j'ai plutôt envie de vous transmettre une gifle, voyez-vous. Mais je ne sais pas ce qui me retient.
La trouille peut-être.
Oui, ça doit être ça.
Je disais donc, Stéphane, que vous avez l'âme d'un pédagogue. Or, en ce jour de rentrée des classes, on vous propose la salle des profs idéales. Les trois personnages dont on brosse le portrait aujourd'hui, vous au pinceau, moi à la truelle, sont trois grands profs.
Oui, Mathieu, on a parlé de Léopold Mozart, le père de Wolfgang Amadeus. Et dans la deuxième heure d'Historiquement Vôtre, je vais vous présenter un prof de maths et de sciences qui n'est pas trop mauvais. Albert Einstein, qui avait un petit cerveau quand même. Et en prof de français, j'ai un ami qui l'a eu au lycée. Ça lui a plutôt bien réussi.
Effectivement, je vous parlerai d'une prof pas comme les autres désormais. Première dame de France, Brigitte Macron.
Je le reste dans cette tenue pour...
Bah oui Stéphane, j'ai fait juste son portrait, elle est pas vraiment là, elle a autre chose à foutre.
Hein. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement Vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter.
Oh oui Stéphane, se la raconter n'est absolument pas votre genre, il n'y a qu'à parcourir votre fiche Wikipédia pour s'en rendre compte. Vous êtes en dépit d'une carrière stratosphérique, d'une humilité totale. Et pourtant, il faudra un jour compter l'histoire du petit Stéphane. Cette enfance à la Dickens, dans les bas-fonds du Luxembourg, quand, pendant que les autres enfants étudiaient dans le confort feutré de leurs écoles privées, vous surviviez sur les marchés.
En vendant des dindons.
Oui Stéphane, vivement que je brosse votre portrait ces jours.
Oui, comme vous dites vivement Mathieu. En attendant, en ce jour de rentrée des classes, on vous propose aujourd'hui une incursion dans la salle des profs idéales. Avec les portraits de trois profs légendaires, après Léopold Mozart, je vous propose de découvrir le destin fascinant d'Albert Einstein, le père de la célèbre formule, Mathieu, E égale...
M6, bah vous prenez avant pour une brêle. Hein.
Au programme jusqu'à 18h, la rencontre entre deux enseignants que nous aurions adoré voir discuter à l'intercours dans la salle des profs, Albert Einstein et Brigitte Macron, dont vous dresserez le portrait.
J'ai rien préparé sur Einstein, Stéphane. Hein.
Je m'en suis chargé. Ah. Concentrez-vous sur Brigitte Macron dans votre 99% vrai, une chronique où tout est vrai, mais dans laquelle une petite erreur volontaire tout droit sortie de votre cerveau, plein de ressources insoupçonnées, peut parfois se glisser.
C'est pas faux.
Et comme chaque jour, aux alentours de 17h32, Olivier Pouls, notre journaliste porté sur le culinaire, viendra nous exciter les papilles. Aujourd'hui, il nous raconte l'histoire des spaghettis à la bolognaise.
Régalez-vous les amoureux, c'est les meilleurs spaghettis de la ville.
Un programme chatoyant Stéphane, bien représentatif de ce qu'est Historiquement Vôtre, une émission plurielle, multicarte. Et comme dirait Stéphane avec sa verve légendaire...
À l'éclectisme déroutant.
Oui, on est vraiment extrêmement impatient d'entendre votre deuxième récit, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et aujourd'hui, rentrée des classes oblige, on vous ouvre les portes de la salle des profs, la plus classe de l'histoire.
Comme moi, vous êtes nombreux, chers auditeurs, à vous poser la question vertigineuse. Est-ce que j'aurais pu devenir bon en maths si j'avais eu un prof moins colérique et moins buté que M. Fournier, mon prof principal en 5e C, qui même à la récré, quand on jouait à 1, 2, 3, soleil, trouvait le moyen de nous reprendre.
1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3, soleil. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant.
Qui sait, avec un prof moins acariâtre, j'aurais peut-être fait une école d'ingé derrière et aujourd'hui je travaillerais sur l'Airbus A350 et non sur Stéphane Bern. Bref, Stéphane, parlez-nous plutôt d'un bon prof de maths et de physique. Il s'appelait Albert Einstein.
Historiquement vôtre. Le récit.
Ne perdons pas de temps, pénétrons dans la classe d'un professeur on ne peut plus atypique. Un enseignant indiscipliné qui... à plus de 70 ans, s'amusait encore à tirer la langue aux photographes. Le savant et excentrique professeur Einstein, dont la théorie sur la relativité générale et sa formule mondialement connue E égale MC2, l'ont propulsé au rang de héros. Einstein est un physicien allemand à l'origine des plus grandes avancées scientifiques du XXe siècle. Un cerveau, comme on dit, qui disait à propos du système scolaire: les professeurs à l'école m'ont fait l'effet de sergent et au lycée de lieutenant. Traduisez 0 sur 10 pour ces maîtres d'école qui n'ont jamais réussi à le faire rentrer dans le moule du parfait petit écolier allemand.
Ah, pourtant, ils sont sacrément bons, ces sablés au chocolat. Prendre l'accent de Stéphane imitant l'allemand.
Parlez très bien allemand finalement. Einstein nourrit une grande rancœur envers ses anciens professeurs. Alors quand, quelques années plus tard, il enseigne à son tour, il en était l'exact opposé. Pour lui, hors de question de revêtir l'habit de l'enseignant bourreau qui tyrannise ses élèves. Il est un maître bienveillant, farfelu certes, mais indéniablement charismatique. Mais n'imaginez pas qu'Albert Einstein, prix Nobel de physique pour l'année 1921, consacre sa vie entière à instruire sans relâche de jeunes étudiants. Au contraire, sa carrière de professeur est aussi fulgurante que la vitesse de la lumière.
Soit à peu près 300 000 km/s, je le précise pour...
Bravo Mathieu, voilà. Bravo. Ouais. Je ne vous savais pas si passionné de physique. Remontons le temps...
Mais j'ai eu 12 au bac, c'est pas mal.
Ah oui, bien. Et découvrons-en... J'ai eu 4 mois. Et découvrons ensemble le parcours scolaire du professeur Einstein. Il naît en 1879 à Ulm, en Allemagne. Ses parents, bourgeois, sont juifs non pratiquants. Son père possède une entreprise qui vend de l'eau, du gaz, puis du matériel électrique. Il veut que son fils soit ingénieur, mais Albert Einstein souhaite devenir professeur et surtout chercheur en physique. Pourtant, ses premières années sur les bancs de l'école se révèlent chaotiques. Albert Einstein ne supporte pas la rigueur militaire qui règne dans les classes allemandes. Les ordres, les devoirs, apprendre par cœur des leçons l'exaspèrent. Il ne manque pas une occasion de le faire remarquer et de tenir tête à ses maîtres. À tel point qu'il devient rapidement l'élève le plus détesté par ses enseignants. Son professeur de grec ne mâche pas ses mots. « Vous altérez le respect de la classe à mon égard par votre seule présence. »
Parle bien français pour un grec.
Et en plus, il le disait en allemand. Justement, Albert Einstein, lui, peine en langue et en histoire, mais survole les mathématiques et la physique. Le problème, c'est qu'en Allemagne, à la fin du 19e siècle, ces matières scientifiques sont considérées comme les moins nobles. En 1895, resté seul à Munich, il rejoint ses parents en Suisse sans prendre le temps de passer son baccalauréat. Passionné par les sciences depuis qu'il les a découvertes dans un livre de géométrie à 13 ans, il n'a qu'une idée en tête: réussir le concours d'entrée d'une prestigieuse école, le Polytechnicum de Zurich. Il réussit au bout de la deuxième fois. C'est là-bas qu'il rencontre sa première femme, Mileva Maric, une étudiante serbe avec qui il aura 3 enfants. Après 4 années, il sort diplômé. Alors que ses anciens camarades de promotion s'installent confortablement dans leur fauteuil de professeur, lui décroche un poste à l'Office des brevets de Berne. La ville, hein, pas moi. À 23 ans...
C'est vrai, c'est vrai. Vous avez un partenariat avec la ville de Berne ou pas?
Aucun.
Est-ce que vous n'êtes pas citoyen d'honneur?
Non, même pas. On partage des jours, c'est tout. À 23 ans, il devient le plus jeune agent technique de 3e classe jamais embauché. Son rôle est simple. Après étude de dossier, il décide si les inventions soumises sont susceptibles ou pas d'être brevetés. Pendant 7 ans, l'ancien étudiant rebelle gagne un peu en sagesse. Il profite surtout de cet emploi stable pour développer des théories qui vont bientôt révolutionner le monde scientifique. La relativité, la physique quantique et le petit mouvement de la matière. En 1905, c'est la consécration. Lui, le jeune employé de l'Office des brevets de Berne, voit ses articles publiés dans une revue allemande. Ses recherches sont saluées dans le monde entier.
« A star is born », comme disait Lady Gaga.
Oui, tout lui sourit. Marié, à la tête d'une famille, Einstein est désormais reconnu par ses pairs et il est sollicité par les plus brillants établissements. Sa carrière de professeur peut enfin décoller. Et vous allez voir qu'elle va le mener très loin.
Europe 1, historiquement vôtre.
Là, je commence à vous connaître, Stéphane. J'imagine qu'il va falloir patienter des années-lumière pour que vous nous révéliez l'ascension vertigineuse du professeur Einstein.
Oui, ce sera très court, Mathieu, très court.
C'est le petit plaisir de Stéphane, vous faire mariner pile quand ça devient intéressant. Ah, on peut dire que vous savez vous y prendre.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue 2 heures à la frontière du rire et du savoir. En guise de douanier, l'impayable Stéphane Bern, pas au sens qu'il est drôle, mais juste qu'il est cher. Stéphane, aujourd'hui, alors que nos chères têtes blondes retrouvent les bancs de l'école, ensemble nous évoquons 3 personnages qui ont marqué l'histoire de l'enseignement. Léopold Mozart, tout à l'heure, Brigitte Macron dans un instant, mais pour l'heure, vous nous parliez d'un type assez doué en sciences, un certain Albert Einstein.
Oui, un professeur allumé, mais brillant. Alors, depuis qu'il a publié ses théories révolutionnaires et notamment présenté sa célèbre formule E égale mc2, Albert Einstein fait partie du gratin scientifique mondial. Dans les années qui suivent, son carnet de bal est bien rempli. Berlin, Genève, Bruxelles, Paris. On lui demande de venir expliquer ses recherches partout en Europe. Albert Einstein tient sa petite revanche. En 1909, il a 30 ans et il est officiellement investi professeur de physique théorique à Zurich. 2 ans plus tard, c'est la grande université de Prague qui lui propose un poste similaire.
Alors on est très loin de M. Fournet, mon prof de maths en 5e C.
Einstein est clairement aux antipodes des autres professeurs, du maître de conférences guindé auquel les étudiants sont habitués. Imaginez, les cheveux et la moustache en bataille, un costume un peu lâche, le regard malicieux de l'éternel laborantin en quête de solution à un problème. Il sollicite ses élèves, leur demande de participer activement à ses recherches. Ils sont fascinés. Le problème, c'est que le physicien Einstein est incapable de se tenir au programme scolaire. Ses cours n'ont pas de lien entre eux d'une semaine sur l'autre. Il préfère les axer sur ses propres travaux d'études. Malgré ce désordre de façade, sa notoriété grandit et il est appelé à de plus hautes fonctions. En 1914, Einstein a 35 ans. Il franchit une nouvelle étape. Lui, qui s'était juré de ne jamais revenir en Allemagne, accepte de diriger le grand institut de recherche de Berlin. Salaire attractif, moyens illimités, il ne peut pas refuser un tel tapis rouge.
Beaucoup de similitudes avec votre propre arrivée à Europe 1, Stéphane.
Sauf qu'à Europe 1, le tapis est bleu, Mathieu.
C'est juste.
Pour revenir à Einstein, sachez que jusqu'à la fin de sa vie, 41 ans plus tard, il ne va plus enseigner. Il est désormais chercheur à plein temps. Il n'aura finalement été professeur que durant 6 années. Ensuite, Einstein oscille entre ses recherches, son intérêt pour la politique. Peu de monde le sait, mais vous savez, il a refusé d'être candidat à la présidence d'Israël comme le lui avait proposé le Premier ministre en 1952. Et Einstein garde du temps pour son amour, pour le violon. Il voue d'ailleurs, hasard de notre sommaire, une admiration sans borne à Mozart et à ses sonates.
Vous savez d'ailleurs, Stéphane, que je connais bien son père à Mozart.
Ah oui ? Grâce à qui ?
À vous.
Ah voilà, transmettre, toujours transmettre. D'ailleurs, au fil des années, Einstein se donne pour mission de transmettre sa passion des sciences au plus grand nombre. Réfugié à Princeton, aux États-Unis après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, il met un point d'honneur à répondre aux 16 500 lettres qu'il reçoit durant toute sa vie.
Presque autant que vous, Stéphane. Elles s'accumulent sur le bureau, il faudrait d'ailleurs les récupérer.
Là, ce sont surtout, il faut bien le dire, des lettres d'étudiants, d'écoliers, souvent pauvres, qui demandent des conseils à Einstein. Einstein qui disait, je le cite, que les savants ont le devoir de partager leur savoir et de l'expliquer, pas pour être connus et admirés, mais pour défendre la liberté et la démocratie. Voilà qui est bien dit.
Europe 1, historiquement vôtre.
J'ai l'impression que rien qu'en parlant d'Einstein, un peu de son intelligence rejaillit sur nous. C'est pourquoi on continue de parler d'Einstein, on ne s'arrête pas avec Étienne Klein, philosophe des sciences, auteur notamment du Pays qu'habitait Albert Einstein chez Actes Sud et de la présentation de Comment je vois le monde, un recueil de textes d'Albert Einstein paru chez Flammarion. Bonjour Étienne Klein.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, j'ai terminé mon récit par cette citation d'Einstein. Les savants ont le devoir de partager leur savoir et de l'expliquer, pas pour être connus et admirés, mais pour défendre la liberté, la démocratie. Au fond, c'est vraiment la transmission avec beaucoup d'humilité qui animait Einstein et le goût de la liberté et de la démocratie.
Oui, je ne veux pas parler en son nom, mais je pense qu'il considérait que la science, elle est républicaine. C'est-à-dire, c'est une affaire publique, et dans une république digne de ce nom, elle doit pouvoir circuler
librement,
sans obstacle, sans contestation, avec discussion, mais sans que des préjugés ou des idéologies viennent l'arrêter. Mais il pensait aussi qu'elle n'était pas démocratique, au sens où la valeur de vérité d'une théorie scientifique ne se décide pas par un référendum.
Et est-ce qu'il avait un ego? On a l'impression qu'il était humble, Einstein. Est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'il avait vraiment un ego un peu...
Non, il était conscient de la valeur de ses travaux.
Oui.
Mais en tant que personne, il était d'une humilité absolue, qui d'ailleurs est en contradiction avec ce que nous montrent aujourd'hui certains scientifiques.
Ah oui, pas de nom.
Oui, pas de nom.
Bon, on va vous retrouver dans un instant, Étienne Klein, pour continuer à parler d'Einstein dans Historiquement Vôtre.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Comme Stéphane et moi, vous êtes double. Vous pouvez rire à gorge déployée devant la 187e diffusion de La Vérité si je m'en deux sur Chéri 25, mais vous pouvez aussi vous passionner pour une soirée théma d'Arte consacrée à l'analyse historiographique des messages de la Bible. Parfois d'ailleurs, tout ça se mélange un peu dans votre tête.
Donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Ah non, ça c'est Enrico Macias.
C'est bien normal Stéphane, c'est ça d'être éclectique. Heureusement, pour évoquer dans le détail et un peu plus sérieusement notre deuxième personnage du jour, Albert Einstein, nous sommes toujours avec le physicien et philosophe des sciences, Étienne Klein.
Il y a cette E égale M6, ce que vous
dites. E égale M6, très très... Formule effectivement la plus connue d'Einstein.
Non, c'est E égale MC2. Mais comment vous pourriez l'expliquer, cette théorie, Étienne Klein, en une minute à mon ami
Mathieu Noël? Vous voyez, c'est le meilleur prof qu'Einstein.
Qui a quand même eu 12 en physique au bac.
Comme Einstein l'a fait dans son article de septembre 1905, qui était un article d'une page et demie, dans lequel il y a la formule écrite avec d'autres notations, mais peu importe. Vous prenez un métal, vous le chauffez, il émet de la lumière. En émettant de la lumière, il perd de l'énergie. La lumière n'a pas de masse. Donc il perd de l'énergie sans perte de masse. Et Einstein dit, ce raisonnement que je viens de tenir avec votre acquiescement est faux. C'est-à-dire qu'un corps, dès lors qu'il perd de l'énergie, même si l'énergie qu'il perd n'a pas de masse, perd quand même de la masse. Et la formule E égale MC2 vient établir l'équivalence entre l'énergie émise et la masse perdue.
Je viens de prendre une photo de Stéphane Bern, mâchoire décrochée, et je la publierai sur les réseaux sociaux.
Ah non, vous ne pas
parce que vous avez bien suivi l'histoire de la formule.
Mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux de toute façon.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Un mot sur l'homme, Einstein. Bon, la physique comptait pour lui plus que tout, quitte à délaisser femme et enfant au profit de ses recherches. C'était pas un bon père ou un bon mari particulièrement. Lui, sa fascination, c'était la physique, point barre.
Je sais qu'on a peu de temps, mais il ne faut pas caricaturer.
Ah non, il était aussi un bon père.
Il a abandonné ses enfants. En fait,
non, je ne dis pas ça, mais
il est allé à Berlin
priorité,
en 1914. Sa femme l'a accompagné, Mileva, avec ses deux enfants. Leur relation était détériorée, donc ils ont...
Il y avait des maîtresses aussi, bouffons.
Oui, mais bon...
Qui n'en a pas, Stéphane?
Elle est rentrée...
Moi?
Ah oui, bien vu, j'avais
oublié. Attendez, elle est rentrée en Suisse, lui est resté à Berlin, il devait se voir régulièrement, sauf que la guerre a été déclarée, et pendant ces années-là, il n'a pas plu...
Ah oui, on ne peut pas lui imputer le fait...
Non, après, bon, c'est un long chapitre, on ne peut pas le caricaturer. Avec Mileva, il a une relation. Et avec sa deuxième épouse, qui était sa double cousine, puisque c'était la fille d'une sœur de sa mère et d'un frère de son père. Il a épousé en deuxième noces.
Ça vous plaît, ce genre d'histoire un peu consanguine, Stéphane? Si, ça vous excite.
Il a épousé en deuxième noces sa double cousine, qui portait déjà son nom.
Oh là. Alors,
une autre histoire.
Ça explique beaucoup de choses. Vous dites, Étienne Klein, qu'il avait l'art de poser des questions d'enfant. De les résoudre avec un cerveau d'adulte.
Oui, c'est ça son génie, de poser des questions d'enfant. Il dit d'ailleurs qu'il a trouvé la théorie de la relativité grâce à son retard mental. C'est-à-dire que les questions d'espace et de temps, c'est des questions qu'on résout avant l'âge de 7 ans ou à partir de 7 ans. On a compris que l'espace, ça se mesure avec des règles, que le temps, ça se mesure avec des horloges. Et une fois qu'on a compris cela, c'est réglé. Et Einstein, lui, s'est posé des questions relatives à l'espace et au temps avec un cerveau d'adulte grâce à son retard mental. Et il posait des questions très naïves, par exemple... Qu'est-ce qui se passerait si la lumière émettait de la lumière?
Oula.
Quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière? La lumière va à la vitesse de la lumière. Si elle émet de la lumière, on ajoute les vitesses. Donc la lumière émise par la lumière va deux fois plus vite que la lumière.
Là, je ne me sens pas une lumière.
Et il comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Et là, il voit qu'il y a un problème.
Et c'est là qu'on est content que l'émission soit disponible en podcast, comme ça vous pourrez réécouter Étienne Klein au ralenti et tout comprendre parfaitement. Merci beaucoup Étienne Klein de nous avoir éclairé sur Albert Einstein. Je rappelle votre ouvrage « Le pays qu'habitait Albert Einstein » paru chez Actes Sud.
Europe 1, historiquement vôtre.
La chronique qui suit, celle d'Olivier Pouls, qui nous fait découvrir l'origine toujours surprenante d'une recette, est un moment piège pour Stéphane qui, parfois, en essayant de cultiver une image proche du peuple, ne fait hélas qu'aggraver son cas, comme vendredi dernier.
Aujourd'hui,
L'histoire du caviar.
Un de vos mets préférés.
Non, je le digère mal.
Et les spaghettis bolo, ça va, vous les digérez bien, Stéphane?
Oh,
impeccable, nous voilà rassurés.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
On dit souvent qu'avec Mathieu, nous avons une gourmandise pour l'histoire, mais au fond, pas que pour l'histoire. Nous sommes des gourmands, tout simplement.
Et à bien des égards, mon Stéphanou. Mais concentrons-nous effectivement sur la gourmandise classique, celle qui a trait à la nourriture. Or, comment décrire notre chroniqueur gastronomique, Stéphane? Si on devait dire ce qu'il n'est pas, on le décrirait probablement comme...
Une jeune femme dont la grâce évoque le balancement d'une fleur dans la brise.
Voilà, vous imaginez l'inverse de ça et vous obtenez Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bah, un jeune homme dont le...
un jeune homme, alors déjà avec le premier adjectif est faux. Alors Olivier, chaque jour, une recette, et plus qu'une recette, l'histoire.
Oui, l'histoire d'un plat aujourd'hui, un plat originaire d'Italie qu'on connaît très bien, enfin originaire d'Italie, qu'on associe à l'Italie, qu'on connaît très bien, mais qui en réalité n'est pas italien et qu'on ne mange pratiquement pas là-bas.
On parle des spaghettis bolognaises.
Eh oui, les fameux spaghettis bolognaises.
Si on va à Bologne et qu'on demande des spaghettis bolognaises...
Ben vous allez passer pour un zozo. Vous n'aurez pas celle que vous bricoliez dans votre chambre d'étudiant à la grande époque. Vous
savez, Stéphane n'a jamais eu de chambre d'étudiant. Il vivait déjà à Versailles dans l'aile droite.
Mais arrêtez. Bon, alors, les spaghettis bolognaises, c'est la rencontre...
C'est la rencontre de deux produits qui n'ont strictement rien à voir dans l'histoire de la gastronomie. Il y a tout d'abord la sauce, ce qu'on appelle nous la bolognaise, qui est une sauce effectivement originaire de la ville de Bologne et de sa région, qu'on appelle là-bas al ragout. Et al ragout,
il faut savoir. Hein.
Ben, je vais vous en donner la recette dans un instant. C'est effectivement cette sauce à base de tomates, de viande, etc. Et puis les spaghettis, eux, ils viennent du sud de l'Italie, ils viennent de Sicile, et les deux ne se sont pas rencontrés. Et l'idée de faire des spaghettis à la bolognaise, c'est une idée qui vient du nord de l'Europe, de la France notamment, au XXe siècle, où probablement un chef avait un paquet de pâtes de spaghettis d'un côté et il avait des restes de sauce al ragout. Il a fait l'assemblage. C'est pas mauvais.
Vous êtes en train de dire que les pâtes bolognaises sont françaises?
Mais c'est plus français qu'italien. Alors après,
est-ce que les Italiens les ont adoptés maintenant?
Pas tellement. Si vous allez en Italie, vous ne pourrez pas manger ce produit. Et en fait, pour une autre bonne raison, c'est qu'en fait, ce qui est important dans l'association de pâtes et de sauce, c'est qu'il faut que la sauce s'agrippe sur les pâtes. Vous savez, pour que ce soit bon, pour que ce soit goûteux et généreux, il faut que sur les pâtes, il y ait de la sauce. Et en fait, le spaghetti, il n'accroche pas à la sauce tomate.
Et oui, c'est bizarre en fait quand on y réfléchit.
Oui. Alors que si vous essayez ce soir avec des tagliatelles ou avec des lasagnes, évidemment, mais vous allez voir que les tagliatelles, ils vont se gorger de votre sauce tomate et ils seront beaucoup plus goûtus et beaucoup plus intéressants
en fait,
à manger
que les spaghettis bolognaises tels qu'on les mange en France, c'est juste une connerie en fait.
C'est pas très
malin. Une aberration culinaire.
Voilà, c'est une aberration culinaire.
Al ragout, la sauce bolognaise, c'est fait avec quoi?
Alors, celle-là, elle existe.
Les mamas italiennes me disent que ça doit cuire des jours, des heures.
Et oui, alors vous savez, en Italie, on a moins codifié la cuisine qu'en France. Il y a moins d'ouvrages qui nous permettent de savoir comment c'était fait. Donc c'est plutôt la tradition dans les familles qui s'est opérée. Et l'Académie italienne de cuisine s'est quand même emparée du sujet, estimant que c'était suffisamment sérieux et a défini ce qu'était l'authentique recette al ragout. Alors c'est de la viande de bœuf. Éventuellement, on peut y rajouter un peu de pancetta, ou espèce de
parce que ça fait jamais de mal.
Parce que ça fait jamais de mal. Des
sauf
carottes. Des oignons, du céleri, de la sauce
du
tomate. Attends, oui, un petit peu de céleri branche. Et alors attention, tenez-vous bien. Un petit peu de vin rouge et surtout du lait. Il y a une petite touche de lait dans l'authentique sauce al ragout parce que ça va donner un peu de moelleux. Essayez lorsque vous, cher Stéphane, dans votre château, vous ferez une grande sauce
château,
al ragout.
Mais je veux bien essayer.
Eh bien, vous rajouterez un petit peu de lait et surtout, ce qui est très important, c'est de cuire cette sauce très, très, très longtemps, plusieurs heures. Et elle est meilleure en plus le lendemain parce que c'est comme l'idée vient du ragout, de quelque chose qui doit cuire longtemps et qui doit vraiment s'imprégner de saveur.
Mais bien, écoutez, merci beaucoup.
Merci
pour cette chronique surprenante.
Oui. Restez avec nous parce qu'en plus d'aimer cuire, vous aimez rire. Et je peux vous dire que vous allez.
Et les deux vont bien ensemble.
Vous allez être servi avec le chef de l'humour, le roi de la blague, celui qui a un esprit qui m'impressionne, c'est Mathieu Noël.
Europe 1, historiquement vôtre.
Depuis le lancement de notre émission, Stéphane Bern fait tout pour vous rassurer sur la rigueur éditoriale d'Historiquement Vôtre, insistant sur la qualité des intervenants, leurs diplômes, les voyant même déjà professeurs quand ils ne sont encore que maîtres de conférences. Il tente également de vous rassurer sur la fiabilité des infos que nous donnons en évoquant l'épaisse bibliographie qui nous sert de base de travail.
Moi, j'adore Daniel Steele.
Oui, c'est pas gagné. Et c'est encore moins gagné quand arrive l'heure de ma chronique. Un portrait 99% vrai où c'est à vous, chers auditeurs, de démêler ce qui est vrai et ce qui est faux.
Aujourd'hui, dans notre spécial Prof illustre, après Léopold Mozart et Albert Einstein, dont Stéphane nous a brillamment raconté la vie, je vous parle de Brigitte Macron.
Je vous ai à l'œil, attention, hein, Mathieu.
Ça tombe bien, j'adore.
Je vous ai à l'œil, vous n'êtes pas à l'œil, mais...
Ah non, non, ça je vous confirme. Et du coup, je peux pas faire ma blague derrière.
Allez, va. Piégé.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre atteint maintenant son point culminant. En tout cas, selon Mathieu Noël, oui. Qui m'a écrit ce lancement. Oui, c'est l'heure d'évoquer notre troisième personnage du jour. Après Léopold Mozart et Albert Einstein, nous finissons notre spécial prof légendaire par la plus légendaire de toutes. Bon, ça c'est moi qui ai rajouté, Brigitte Macron.
Oui, et là j'ai mis la Marseillaise pour vous faire plaisir. Une amie aujourd'hui dans...
100% vrai. Enfin, disons... 99% vrai.
Et encore, les bonjours. Dans 99% vrai, aujourd'hui, Stéphane a l'honneur donc l'une de vos amies, une véritable amie, je précise, pas l'une de vos amies imaginaires avec qui vous communiquez la nuit. Ne prenez pas cette arrêterie, vous savez, un psy, vous lui agitez 200 balles sous le nez, il met pas longtemps avant de la mèche. Je sais donc de sources sûres que vous parlez régulièrement à Marie-Antoinette et Anne d'Autriche, parfois même que vous poussez le vice jusqu'à bitcher sur Anne d'Autriche avec Marie-Antoinette.
Elle se tapait son père, tu sais.
Bon, sachez, Stéphane, qu'on ne vous juge aucunement, même si votre psy a ajouté chacun ses vices, aussi tordu soit-il. Bref, nous voilà, il est vrai, déjà à la moitié de cette chronique et toujours pas un mot de Brigitte Macron. Que se passe-t-il ? Comment Mathieu Noël, si fielleux avec les faibles, toujours prompt à taper sur ceux qui ne peuvent pas lui rendre ses coups, serait-il un pleutre, une poule mouillée, un lâche sans dignité, un vil trouillard, un poltron affolé par la perspective d'un possible contrôle fiscal suite à une chronique jugée en haut lieu trop corrosive? Mathieu Noël, dont l'arc de l'irrévérence débanderait soudain au moment de s'atteler au portrait satirique de la première dame de France, que n'est... Oui. Oui Stéphane, oui, je débande, hein, mon arc en tout cas. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. En plus, avec cet argent que vous m'avez demandé de placer en Suisse, c'est pas le moment que Bercy s'intéresse à nous. C'est donc un portrait d'une violence inouïe que je vais à présent vous livrer. J'espère qu'à l'Élysée, ils sont prêts. Alors, il y aura deux parties. 1. Brigitte Macron, prof de français, la fierté éternelle de l'éducation nationale. 2. Brigitte Macron, première dame, Michel Obama en mieux. C'est subversif, mais passé un certain âge, je crois qu'il faut avoir le courage de ses convictions. Je compte sur vous, en tout cas Stéphane, pour me reprendre si je me trompe dans un élément biographique. Déjà, êtes-vous en mesure de nous confirmer que dans l'intimité du cercle familial ou amical, ses proches l'appellent Bibi, comme Bibi Foc ou Bibi Flash ?
J'en ai aucune idée.
Comment ça ? Mais cessez votre langue de bois, on sait mais que vous
non,
êtes amis.
Mais non, mais...
Enfin, je sais pas, elle aime les endives au jambon, elle dort à droite ou à gauche du lit, elle met son téléphone en mode avion ou en mode lune. Vous savez bien quelque chose, non ?
Non.
Mais tant pis pour vous. Alors c'est moi qui improvise. Direction le Nord. Et le Nord, ce n'est pas que les corons, c'est aussi les macarons. Ce Damien que fabrique, je vous le donne en mille, le papa de Brigitte Macron, né Trogneux. Trogneux, un grand nom de la chocolaterie amiennoise. Nous
je
sommes.
Confirme.
Nous, vous confirmez, Pouls, vous êtes là. Ouais. Nous sommes le 13 avril 1900. Oui, restons chic. La petite Brigitte vient de naître. Dieu, qu'elle est chou. Stéphane, qui vient de gagner son premier million à TF1, est déjà là. Penché au-dessus du berceau, car comme il le dit si bien...
Tout change, mais moi je suis toujours là.
Il lui dit « Gouzi, gouzi, Brigitte !» Elle lui répond « Arre, arre, une amitié est née !» Les jeunes années de Brigitte ressemblent à la bande promo d'une Miss France. Brigitte est bélier, grande lettrée, sportive, amoureuse du touquet et des balades à bicyclette. Bref, une femme de son temps qui croque la vie à pleines dents. À l'âge de 20 ans, Bibi se marie une première fois avec le banquier André-Louis Ozière, dont elle aura trois enfants, Sébastien, Laurence et Tiphaine. Elle est alors prof de lettres. Une prof inspirante, rigolote et rock'n'roll selon un de ses anciens élèves qui, cela dit, est peut-être lui aussi sous le coup d'un contrôle fiscal et donc il n'allait pas dire qu'elle était maussade, sévère et vieux jeu. C'est en tout cas lors d'un atelier de théâtre qu'elle anime en parallèle de ses cours de français qu'elle fait la rencontre d'Emmanuel Macron. Le temps s'arrête et la musique d'Umberto Tozzi, qui ne sera pourtant composée que 6 ans plus tard, retentit dans leur cœur. Emmanuel Macron tombe alors immédiatement et éperdument amoureux de Brigitte. C'est son premier amour, le plus beau, le plus pur. Même la réticence de ses parents ne jouera pas sur la dévorante passion qui l'habite.
C'était ton premier amour. Le premier, c'est un brouillon, c'est rien, c'est de la merde.
Et non, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas à le décourager. Quelques années plus tard, en octobre 2007, Brigitte épouse Emmanuel Macron, de 24 ans son cadet. Et je pense que toutes les blagues ont déjà été faites sur le sujet de leur différence d'âge, surtout les plus pourries. Ne comptez pas sur moi pour m'en faire l'écho. Avec Stéphane aussi, on a un sacré écart. 40 ans, c'est pas rien. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux, même si évidemment, j'ai peur de partir avant lui. Surtout depuis qu'Alzheimer a fait son apparition, un dimanche, durant la messe. Bon.
Donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Ah non, ça c'est Enrico Macias.
Sur le plan philosophique, Stéphane, c'est important, Brigitte Macron se qualifie volontiers de leibnizienne.
Pardon ?
De leibnizienne.
Oui.
Bon, elle kiffe la philosophie de Leibniz, quoi. Stéphane, pouvez nous en dire plus sur le versant philosophique de Brigitte Macron? Vous situez Leibniz?
J'adore le yodel.
Bien. Alors, concluons rapidement, car pour l'instant, sur le plan de la non-subversivité, on frise le sans-faute. Brigitte Macron, vous l'aurez compris, est sans débat possible la plus grande première dame que la Ve République ait connue. Je suis très impressionné à l'idée de me dire que je connais un tout petit peu quelqu'un qui la connaît, bah, visiblement un petit peu aussi. Et Stéphane, je te dis bravo, il fallait surtout pas dire de conneries sur Macron. Comme air comme t'es, j'avais peur que tu lâches un truc perso.
Et lorsqu'il est excité, je sais pas, il suit un peu de la moustache.
Oh merde, c'est très pute. Oh non, Stéphane.
Merci Mathieu. 99% vrai. Mais vous savez, point biographique, elle a enseigné à Franklin à Paris, et les élèves gardent un souvenir.
Oui, je sais, je la taquinais en disant que qu'elle n'était pas forcément rock'n'roll. Si, si, tous les témoignages vont dans ce sens-là. Elle était différente comme prof, en tout cas.
Exactement, et ils s'en souviennent tous.
Elle était fantastique, disons-le.
Je crois l'avoir suffisamment assez dit dans ma chronique qu'elle était formidable. J'ai été bon.
Ah ben, vous avez flatté tout ce qu'il fallait.
Exactement, comme il faut.
Même moi, dans ce métier. Moi, j'ai quand même. Voilà, c'est un sujet, un verbe, un compliment, moi. Et ben, ça, c'est ma syntaxe. Mais là, vous m'avez devancé. Eh oui. Je pensais, même moi, j'aurais été plus incisif.
On fait vraiment une belle équipe.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots.
Bon, enfin, c'est surtout vous, Stéphane, qui vous intéressez à l'histoire des mots. C'est un peu votre marotte. Encore hier soir, vous m'avez forcé à jouer au Scrabble avec vous. Ah, non seulement je l'ai fait pour vous faire plaisir, mais en plus, vous êtes mauvais perdant.
En fait, non. C'est-à-dire que ça rentrait pas dans le bon sens.
Nouvelle question pour vous, chers auditeurs. Est-ce vraiment pendant une partie de Scrabble que Stéphane a prononcé cette phrase équivoque? La réponse est non. Mais procédez, Stéphane. Chaque jour, vers 6h-10, c'est votre morceau de bravoure, votre solo, un peu comme lorsqu'enfant, vous deviez vous lancer seul à la flûte à bec devant tous vos petits camarades. Allez, mon grand, ne tremblez pas. De quel mot ou expression nous racontez-vous l'histoire aujourd'hui, Stéphane?
Eh bien, avant de vous donner le mot du jour, mon cher Mathieu, force est d'admettre qu'aujourd'hui, on a beaucoup ri hein, dans l'émission. Mais sachez, je me suis beaucoup forcé parce que je vous dois la vérité, mon cœur saigne. Mon oui, et oui, vous n'y pensez pas, mais ça fait 305 années aujourd'hui.
Vous aimeriez que ce soit 35 ans. Vous êtes trahi. 305 ans que quoi?
305 ans que le roi Soleil n'est plus. Oui, Louis XIV est mort, je m'en suis toujours pas remis, un 1er septembre 1715. Bon, j'imagine facilement que cet anniversaire vous passe bien au-dessus. Enfin, je voulais, pour ma part, marquer le coup et revenir sur cette appellation, le Roi Soleil. Pourquoi ce surnom est-il passé à la postérité? D'abord, vous connaissez la devise de Louis XIV.
C'est moi.
Non, il ne l'a jamais dit ça en plus. Nec pluribus impar, que l'on peut traduire de différentes façons. Bon, j'aime autant vous dire que les exégètes ne se gênent pas. Je suffis à plusieurs mondes, suffisant seul à tant de choses, ce qui veut rien dire. Rien ne lui est impossible, etc. Mais au-dessus du reste des hommes, c'est une référence directe à l'astre solaire. Ensuite, c'est vrai que le fonctionnement de la course sous son règne a été organisé comme s'il était le soleil, une étoile autour de laquelle toutes les planète gravite. Et enfin, parce qu'en 1662, lors d'un prestigieux ballet, le roi est apparu déguisé en soleil, en Apollon, et par la suite, on l'a appelé le roi soleil. Je ne sais pas, Mathieu, s'il vous arrive, entre amis ou dans l'intimité, de vous déguiser.
Ça m'arrive, oui. Mais pas en soleil.
En quoi vous déguisez?
En infirmière. Enfin, normal, quoi. Des trucs un peu, je ne sais pas, des choses rigolotes, quoi.
Vous auriez du succès au Japon. Mais oui, ils adorent.
Mais pas qu'au Japon, mon Stéphane.
Ah, c'est vrai.
Venez passer à la maison un soir.
Bah, très bien. Faites attention au choix du costume, parce que les surnoms peuvent vite arriver et rester. Bon, revenons à la mort de Louis XIV. Il soupire un 1er septembre à 77 ans, après une agonie de 3 semaines où il avait la gangrène à la jambe, ça devait sentir très mauvais. Selon Saint-Simon, il déclare 4 jours avant à Madame de Maintenon que, je cite, « ce qui le console de la quitter était l'espérance à l'âge où elle était qu'il se rejoindrait bientôt. »
Oh, la classe. C'était élégant. Hein, ouais.
Oh, je pars, madame, mais vous allez me suivre, on se retrouve vite. C'est d'ailleurs au XVIIIe siècle qu'un proverbe naît « le soleil brille pour tout le monde ». Ce dicton, évidemment, vient des évangiles où il est écrit « Dieu fait luire son soleil sur les bons et sur les méchants ». Mais, sauf comme disait Prévert, pour ceux qui sont à l'ombre, à la fois en prison ou au fond de la mine.
Voilà. Merci. Donc rien à voir avec, moi je pensais le roi soleil, les lumières, enfin je sais pas, non.
Non, le siècle des lumières est arrivé plus tard.
C'est pas faux, Stéphane, c'est pas bête, c'est important,
c'est important de le faire.
C'est un siècle plus tard. Et oui, c'est dommage, non, il aurait pu être précurseur.
Il était Apollon, et d'ailleurs quand vous regardez le château de Versailles, tout est fait en fonction du rythme du soleil. Sa chambre, c'est là où dardent les rayons du soleil à midi.
et la vôtre, celle qui était dans l'aile est du château, vous aviez un peu de soleil ou vous étiez côté nord?
Non, moi je suis très modeste.
Ouais, c'était face nord. Merci Stéphane pour cet éclairage audacieux. Une fois de plus, on en aura appris des choses au cours de ces deux heures. Qu'Einstein était un grand pédagogue, que Léopold Mozart, le père d'Amadeus, était déjà célèbre avant son fils. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre, Stéphane?
Par exemple, Annie Cordy est devenue baronne belge.
Non mais c'est intéressant. Bon, oui, que le papa de Brigitte Macron était le roi du macaron. Vous voyez qu'il y avait aussi du fond dans cette émission, Stéphane.
Heureusement que vous êtes là.
Oui, il faut se rendre à l'évidence.
Stéphane Bern et Mathieu Noël, historiquement vôtre.
C'est le humide, mais le neurone revigoré que nous refermons avec Mathieu Noël. Ce nouveau numéro d'Historiquement Vôtre. Vous gloussez, mais on dirait un dindon.
C'est ce que j'imagine, cette émission votre humide, neurone revigoré. J'essaie d'imaginer le petit neurone.
Cette émission qui se propose de réconcilier l'histoire avec la bonne humeur. Je crois, ma foi, qu'on y est parvenu aujourd'hui.
Bien sûr, Stéphane, et ce, grâce à vous, non. Car la qualité de l'émission ne tombe pas du ciel. Elle ne doit rien au hasard, mais tout à votre travail. Chacune de vos explications était éclairante et surtout d'une logique imparable.
On l'appelait Jean Laveau. Donc il était aveugle.
Vraiment Stéphane, je savais que vous étiez brillant, mais là j'aurais dû prendre mes Ray-Ban, tant votre bon sens m'éblouit.
Bon, moi en revanche, pas besoin de lunettes de soleil pour affronter vos lumières, Mathieu. Non mais, elles sont très tamisées. Comme celles des clubs bizarres d'ailleurs que vous fréquentez.
Oui, mais ça c'est une toute autre histoire. Une histoire qui n'intéresse pas nos auditeurs. En revanche, le programme de demain, ça Stéphane, ça peut les intéresser.
Oui, demain mon cher Mathieu, nous nous pencherons sur les destins de trois collectionneurs hors pair. Philippe de la Renaultière von Ferrari, il s'est détimbré. Il était timbré. Casanova, qui collectionnait des femmes. Et alors, Bob Sinclair, je crois qu'il...
Vous ne savez même pas qui c'est un DJ.
C'est un DJ,
des disques.
Il collectionnait les vinyles, oui.
Exactement. Oui. Programme alléchant.
Non, vous ne croyez pas si bien dire. Ça va lécher dans tous les sens.
Mais enfin, Stéphane.
Bah oui, les timbres.
Ah oui, les timbres. Autant pour moi.
Faut leur lécher le derrière avant de les
tamponner. Oui. Alors, si vous voulez réécouter justement les blagues salaces de Stéphane Baird ou l'émission bien plus sérieuse dans son intégralité, Historiquement Vôtre est disponible en podcast sur le site d'Europe1.fr et sur toutes les applis audio.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.